Salut les parents modernes et bienvenue sur le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Et aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux nouveaux parents, aux futurs parents. Eh bien, ce sujet risque de t'intéresser. Ou si tu es un nouveau parent, si tu es un nourrisson, si tu es un enfant à la maison, bref, qui est avec toi et que tu vas devoir un jour trouver un milieu de garde, ben, t'es à la bonne place parce que aujourd'hui, cette semaine, dans les prochaines semaines, en fait, je te prépare un très gros dossier, mais un dossier hyper riche sur les milieux de garde au Québec pour vraiment vous accompagner, pour vous aider à vous préparer, pour vous aider à cibler un milieu qui va vous convenir, qui va convenir à vos besoins et aux besoins de vos enfants, qui va répondre à vos valeurs. Mais comment on fait ça? Comment on fait pour trouver un bon milieu au Québec? Je sais qu'on vise souvent les CPE, mais on le sait, les CPE, c'est comme gagner un billet d'or ou un billet de loterie. On peut inscrire nos enfants, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. D'ailleurs, comment on fait pour inscrire nos enfants dans ces milieux-là puis prendre cette chance-là? C'est un dossier là-dessus que j'avais envie de vous préparer pour vous guider vraiment, les parents, dans ces choix-là, pour faire des choix un petit peu plus éclairés. Donc, on va parler à travers ce dossier-là de justement c'est quoi les différents milieux de garde, parce qu'il y en existe énormément au Québec, des différents milieux de garde, des garderies non subventionnées, des milieux privés, des garderies privées subventionnées, bref. Je vais parler de ça aujourd'hui pour faire la différence. J'ai envie aussi d'aborder un petit peu plus les lois pour que vous soyez au fait de qu'est-ce que les milieux ont le droit de faire versus qu'est-ce que les milieux n'ont pas le droit de faire, qu'est-ce qui est normal versus qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment ça fonctionne, la place 05, c'est quoi la place 05, comment on fait pour inscrire nos enfants, quand est-ce qu'il faut inscrire nos enfants, puis quand est-ce qu'il faut se décourager si on n'a pas d'appel pour notre enfant, sinon c'est quoi les alternatives qu'on a. J'ai envie de parler aussi de quand on va visiter un milieu, parce que c'est super important si jamais tu le savais pas, c'est pas parce que tu inscris ton enfant sur différents milieux que quand on t'appelle, tu dois accepter immédiatement la place. C'est super important d'aller visiter, d'aller voir le milieu, de poser des questions. Puis des fois, les parents sont peut-être gênés, mais non, c'est pas parce qu'il y a une garderie qui t'appelle que tu es obligé de prendre la place. Ça se magasine, une garderie finalement, et moi je veux vous aider à magasiner vos garderies, votre future garderie aujourd'hui. Donc, c'est quoi les choses à observer, c'est quoi les red flags, c'est quoi les questions aussi que je peux poser. Donc ça va venir dans les prochaines semaines aussi, je vais faire un dossier là-dessus et je vais faire aussi un épisode sur l'intégration. Donc comment on commence ça, comment on accompagne notre enfant dans une entrée, dans un nouveau milieu. Alors vous allez voir, c'est vraiment vraiment riche. Et pourquoi je peux me permettre de faire tout ça aujourd'hui, ben je veux dire, n'importe qui pourrait se permettre de faire ça, mais pourquoi je le fais, c'est que si jamais tu ne savais pas, j'ai travaillé longtemps en CPE, ok? Ça fait depuis que j'ai 17-18 ans, j'ai toujours touché à ce milieu-là. Là, pendant mes études, je travaillais l'été dans des CPE, dans des garderies, j'ai travaillé aussi dans les milieux familiaux, là, j'ai fait des remplacements. Ma mère a toujours travaillé. Donc, moi, depuis que j'ai 4-5 ans, en fait, je vais travailler avec ma mère qui est éducatrice en CPE. Donc, je baigne là-dedans depuis que j'ai 5 ans. OK? Je connais ces milieux-là comme le fond de ma poche. J'ai travaillé aussi pendant 5 ans comme éducatrice spécialisée en stimulation du développement, comme conseillère pédagogique. J'ai travaillé étroitement avec les équipes de direction. J'ai reçu là, des familles qui venaient, j'ai fait des visites de milieux de garde, j'ai fait visiter en fait des milieux de garde à des familles. Je les ai vraiment guidées là-dedans, fait que des questions j'en ai reçues et je suis moi-même maman. Donc j'ai visité plusieurs milieux, j'ai vécu les milieux familiaux, j'ai vécu la garderie privée subventionnée, j'ai vécu des milieux familiales aussi qui n'étaient pas optimales pour mes enfants. On a vécu aussi CPE. J'ai vraiment vécu plusieurs milieux en tant que maman. J'ai fait plein de visites. J'ai refusé d'inscrire mes enfants dans plusieurs milieux. Fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis vraiment une très bonne personne, très bien placée pour t'outiller, pour t'éclairer là-dessus. C'était une très longue intro, mais c'est parce que on s'embarque pour un long projet ensemble dans les prochaines semaines. Voyons, je bafouille. Alors là, je t'invite dès maintenant à écrire à toutes tes amies là, qui sont enceintes, à toutes tes amies qui ont un bébé de moins d'un an, pour envoyer ça à toutes les mamans, à tous les papas autour de toi, parce que je le sais que ça va vraiment, 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 vraiment aider énormément de parents. Et là, c'est gratuit. Fait que allez-y, partagez ça. Partagez pour les aider, pour les outiller, pour que tout le monde puisse faire le bon choix. Alors oui, aujourd'hui, on commence par faire la différence entre les différents milieux de garde au Québec. Donc, centre de la petite enfance, garderie subventionnée, garderie non subventionnée, service de garde en milieu familial avec accréditation, qui sont associés donc avec un bureau coordinateur, un BC. Ça veut dire quoi ça? Un milieu familial privé, avec ou sans permis. Pour vrai, il y a tellement de choix, entre guillemets, quand vient le temps de sélectionner un service de garde adéquat pour notre enfant. Et c'est vraiment pas simple de s'y démêler, surtout quand c'est notre première expérience. Donc ici, au Québec, on est chanceux parce qu'il y a plusieurs façons. Je dis on est chanceux, là, je veux pas me faire lancer des roches. Je sais que c'est hyper difficile, les parents, là, quand vient le temps d'inscrire vos enfants. Je le sais que c'est hyper contingenté. Je le sais qu'il y a plein de parents qui ont pas de place. Je sais qu'il y a plein de parents qui doivent faire le choix de ne pas travailler, de rester à la maison. Je sais qu'il y a des parents aussi qui doivent déménager, faire des changements dans votre carrière. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment déplorable. Je comprends, je trouve ça vraiment plate qu'on en soit à ce point-ci. Mais donc, il faut se tourner vers les différents milieux. Donc aujourd'hui, on va parler de c'est quoi la différence entre les différents milieux, en fait, qui sont offerts ici au Québec et quelle est la loi que tous les milieux sont tenus de respecter. Et je tiens à rappeler que la semaine prochaine, je vais revenir avec la suite du dossier qui va être concernant les questions, les choses à observer, les red flags dans les différents milieux. Mais aujourd'hui, je parle particulièrement de la loi et de c'est quoi la différence entre les différents milieux. OK, donc, on part ça avec le milieu le plus prisé, qui est comme souvent ce qu'on vise, ce qu'on veut, et c'est le centre de la petite enfance. Donc, c'est un CPE et non une CPE, c'est un centre de la petite enfance avec l'acronyme CPE. Donc, ça, c'est un milieu de garde sans but lucratif, c'est vraiment subventionné par l'État, c'est vraiment le milieu que tout le monde vise. Donc, le ministère de la Famille, c'est lui le grand chef d'orchestre de ces centres de la petite enfance-là. Donc, évidemment, il y a des règles, il y a des normes hyper rigides, tant au niveau du programme éducatif, donc pour soutenir le développement des enfants, qu'au niveau des exigences de formation du personnel, des règles à l'interne et de tous les protocoles de santé et sécurité qui protègent les enfants, qui protègent aussi le personnel éducateur. Donc, d'ailleurs, il est obligatoire là, d'appliquer le programme du ministère de la Famille dans ces centres-là. C'est un programme qui est basé sur, qui a été établi là, par plusieurs professionnels, qui est basé sur l'apprentissage par le jeu, puis le développement global puis harmonieux. Donc, ils ont vraiment un programme éducatif, un peu comme à l'école, qu'ils sont obligés de suivre. Après ça, ils ont une latitude là, par rapport à quelle activité ils font, tout ça. Là. Il y a quand même une grande liberté, mais il y a un programme éducatif qu'ils doivent appliquer. Souvent, on va observer les 4-5 ans, ils vont faire le programme Brin d'amis. Donc, c'est ça. Des programmes qui sont là pour accompagner les enfants. Les CPE, ben, sont administrés par... il n'y a pas personne qui possède. Là. C'est pas, tu peux pas avoir ça au privé. Il n'y a pas de propriétaire, dans le fond. Là. C'est vraiment à l'État. Et les CPE sont administrés donc par des gestionnaires, donc des directrices ou des directeurs. Donc, on va voir souvent un directeur, directeur adjoint. Ça, c'est les gens qui vont administrer ça. Par contre, c'est pas eux qui prennent les grandes décisions parce que c'est vraiment, ça appartient à l'État. Donc, les décisions doivent être entérinées par un conseil d'administration qui, lui, est formé souvent de 7 personnes qui sont majoritairement des parents du milieu. C'est ça qu'on veut, c'est ça l'idéal, là. Mais donc, dans le CA, c'est évidemment, il n'y a pas de membre de direction ni d'éducatrice qui travaille dans le milieu. Donc, c'est vraiment des parents qui, eux, sont élus par les autres parents des enfants qui fréquentent le CPE. La plupart des CPE sont ouverts 5 jours semaine. Là. Je pense pas mal sûr que tous les CPE sont ouverts 5 jours semaine, de 7 à 18 heures. Ils ont toutes la même horaire. Et les éducatrices font de la rotation. Ça, l'horaire des éducatrices, c'est à la discrétion plus des différents milieux. Mais c'est ouvert de 7 à 18 heures. Donc, techniquement, votre enfant peut fréquenter le CPE, le centre, le service, le milieu de garde, dans ces heures-là. Par contre, Il y a d'autres milieux qui vont offrir des services des fois le soir, de fin de semaine, et ça, on en reparlera plus tard. Les CPE, c'est vraiment du lundi au vendredi, de 7 à 18 heures, et il y a une plage horaire de 10 heures qui est obligatoire. Donc, ils sont obligés d'être ouverts pendant 10 heures par jour. Et il doit fournir un repas, deux collations, du matériel éducatif, le matériel d'hygiène commun. Donc, généralement, le milieu fournit tout. Après ça, il y a certains milieux qui vont demander d'apporter des doudous, d'apporter des toutous. Il y a des milieux qui vont tout fournir ça. Ça peut varier d'un milieu à l'autre, mais tout ce qui est sinon papier toilette, mouchoir... pas les couches, par contre, il faut amener nos couches, mais les lingettes, tout ça, généralement, c'est fourni. Et chaque année, habituellement, à moins que ça, qu'il y ait des particularités dans certains groupes, les enfants vont passer d'un groupe à l'autre. Généralement, ça va se faire pendant l'été ou au mois de septembre par rapport à l'âge. Et donc, un enfant, mettons, qui a 3 ans, ne peut pas aller dans le groupe des 4 ans avant qu'il ait eu sa fête de 4 ans. Ça, c'est quand même assez rigide. Et donc, la plupart du temps, les éducatrices font un choix de groupe au printemps. Là, ça s'est fait récemment. La plupart du temps, il y a un changement d'éducatrice à chaque année. Il y a un changement de local aussi. Puis les copains, les amis, les enfants dans le groupe aussi, des fois, sont mélangés. Des fois, par exemple, s'il y a deux groupes de 4-5 ans, dépendant la grosseur du milieu, parce qu'il y a des très petits milieux, il y a des très gros milieux. Donc, tout ça, ça bouge. Ça bouge à chaque année. C'est un peu comme à l'école, finalement. Et les groupes sont divisés de la façon suivante. Donc, on a la pouponnière qui n'est pas présente dans tous les CPE. Ça, c'est une chose aussi qu'il faut savoir. C'est pas tous les CPE qui ont une pouponnière, mais la pouponnière, c'est de... zéro, là, c'est rare que tu envoies ton enfant à un mois, mais bon. De, mettons, 6 mois à 18 mois, dans ce groupe-là, il va avoir une éducatrice pour 5 enfants ou il va avoir deux éducatrices pour 10 enfants. Ça, c'est la loi. C'est ce qui est entendu dans le ministère. Ils peuvent pas dépasser ça. Ils peuvent pas avoir une éducatrice pour 6 poupons. Ça ne se peut pas. C'est illégal. Donc, une éducatrice pour 5 enfants, 2 pour 10. Ensuite, il y a le groupe des 2-3 ans. Ça va être une éducatrice pour 8 enfants. Ou encore une fois, il peut avoir deux éducatrices pour plusieurs enfants, des groupes doubles, souvent. Donc, deux éducatrices pour, ça serait pour 16 enfants. Ensuite, il y a le groupe des 3-4 ans. Encore une fois, un ratio, une éducatrice pour 8 enfants. Et ensuite, il y a le groupe des 4-5 ans, qui là, vu que les enfants sont un petit peu plus grands, un petit peu plus autonomes, c'est une éducatrice pour 10 enfants. Mais de plus en plus, on retrouve des modèles de groupes variés. Là, ça arrive des groupes doubles, ça arrive... plusieurs choses, des groupes de multi-âge aussi. Donc, un groupe de 8 enfants, mais que ça va être des groupes, des enfants de 18 mois à 48 mois avec une éducatrice. C'est ça. Et donc, c'est souvent le milieu le plus prisé parce que, il y a la contribution réduite, hein, ça, donc ça coûte moins cher, là, je sais plus si c'est rendu, je devrais savoir parce que mes enfants, j'en ai une qui va en CPE, je pense qu'on est rendu à 8,95 en 2024, donc par jour, la balance, c'est le gouvernement qui paye parce qu'évidemment, ça coûte plus cher que ça par tête d'enfants, d'envoyer nos enfants dans ces milieux-là. C'est le milieu le plus prisé parce que bon, c'est lui qui est le plus rigide, qui est probablement le plus sécuritaire là, en termes de... Il y a des protocoles pour tout. Il y a des protocoles pour les produits nettoyants doivent être rangés sous clé. Non. Il y a des protocoles pour tout ce qui est le menu. Il y a des protocoles pour la sécurité des enfants. Quand on rentre dans le CPE, les portes, il y a des codes partout. Des fois, il y a des caméras à l'extérieur. Nos enfants, ils ont des puces où ils ont un système qui enregistre à quelle heure ils rentrent, à quelle heure ils sortent. Il y a vraiment des protocoles très sévères par rapport à quand c'est pas le parent qui vient chercher. Il faut être sur les listes. Donc, souvent, c'est ça. C'est, au niveau de la sécurité, c'est souvent des milieux qui sont très optimales. Optimal. Mais bon, il y a toujours des petites brèches, là, ça l'arrive. C'est pour ça que le ministère va faire des visites surprises dans les milieux pour... Puis là, ils sont là pendant 2-3 jours. Puis là, ils vont sortir. Ils vont aller visiter tous les locaux. Ils vont tout vérifier. Ils vont tout s'assurer. C'est des listes là, ultra précises avec des fois des affaires qu'on se dit comme « Mais c'est donc ben niaiseux. » Mais c'est ça. C'est une ligne qui est tranchée. Puis c'est soit c'est oui, soit c'est non. Il n'y a pas de zone grise. Puis quand on est dans la... Quand les CPE ne respectent pas ça, ils se font taper sur les doigts. Ils ont des avertissements. Ils ont des amendes. Bon, bref. C'est très, 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 très rigide. Par contre, est-ce que ça veut dire que tous les CPE sont exceptionnels? J'aimerais te dire que oui, mais ma réponse est non, malheureusement. Bien que les normes soient toutes les mêmes, chaque milieu reste quand même unique et différent, tant au niveau de l'approche pédagogique qui est préconisée, que dans les valeurs, que dans les services spécialisés qui sont offerts, dans le type de menu, dans l'état général des lieux. Donc, est-ce que c'est un CPE qui est nouveau? Est-ce que c'est un CPE qui est très vieux? Des fois aussi dans le genre de personnes qui travaillent dans l'équipe. Ça peut être un milieu, donc, qui pourrait super bien convenir aux besoins spécifiques de ton enfant. Ou peut-être ça pourrait moins convenir, que ce soit dans un CPE ou dans différents milieux de garde. Donc, je t'invite à continuer à écouter pour que je te décrive les autres milieux aussi. Tu vas voir, il y a d'autres milieux aussi qui peuvent être super appropriés pour ton enfant. Donc, pour inscrire ton enfant en CPE, on fonctionne comment? Généralement, là, le plus tôt, le mieux. Fait que dès que tu es enceinte, si tu as quelqu'un que tu connais que tu es enceinte, c'est ce moment-là qu'il faudrait inscrire notre enfant sur la place 05, même si tu n'as pas encore accouché, en écrivant la date de naissance de ton enfant, donc la date projetée à la limite d'entrée. Là, tu peux un peu écrire n'importe quoi. Tu peux dire « OK, mon enfant va avoir un an autour de cette date-là ». Ça, c'est super important d'aller sélectionner, inscrire ton enfant sur les différentes listes. Donc, la place 05, il faut que tu ailles sélectionner les différentes garderies que tu veux inscrire ton enfant, les différents milieux familiaux qui sont accrédités avec un bureau coordonnateur d'un CPE. Je vais t'expliquer la nuance tout à l'heure. Donc, tu vas vraiment sur la place 05, tu vas sur la carte, puis tu peux aller cliquer, le cocher toutes les CPE un à un. Je sais que c'est une étape qui est longue, mais c'est super important de le faire parce que si tu attends, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne par date où est-ce que tu as inscrit ton enfant. C'est ça la liste de priorité. C'est comme ça que ton enfant va être appelé ou pas. Fait que si tu attends, mettons, que ton enfant il aille 6 ou 7, 8 mois, puis tu dis comme bon, le mois prochain, il faudrait qu'il aille à la garderie ou dans 3 mois, bien, il était déjà un peu trop tard pour inscrire ton enfant parce que le CPE, lui, il va prendre la liste, il va dire bon, là, il faut que je fasse rentrer des poupons, mettons, si tu es chanceuse, puisque c'est un CPE qui a des poupons, puis il va regarder, OK, bien, c'est qui a été inscrit en premier et il va appeler la première personne qui s'est inscrite, c'est ça la date qui est la plus importante, c'est la date que tu as inscrit ton enfant. C'est pas la date de naissance, c'est vraiment ça. Puis il faut faire des mises à jour de ton dossier. Ils vont t'envoyer des courriels à chaque 3 mois, je pense. Il faut que tu mettes à jour ton adresse, les informations pour t'assurer que tout est en règle. Et c'est la seule et unique façon d'inscrire nos enfants sur la place, en CPE en fait. Tu ne peux pas bypasser ça, même si tu es quelqu'un de connu, puis que tu as une plateforme, puis que tu as Wikid, puis que tu travailles en CPE, puis tu connais ça comme le fond de ta poche. Tu ne peux pas. Je n'ai jamais pu bypasser ça. Si j'ai réussi à avoir une place en CPE, c'est pas à cause de ma situation. C'est pas parce que je suis plus choyée qu'une autre. C'est juste parce que j'ai inscrit mes enfants. Quand j'étais enceinte, je savais quand le faire et qu'on a été, après ça, hyper chanceux. On a gagné le ticket d'or. Puis Margot, généralement, c'est plus facile d'avoir des places pour les enfants de 4-5 ans parce qu'il y a plein d'enfants qui quittent et qui s'en vont à la maternelle. 4 ans, à la pré-maternelle. Donc, souvent, il y a des places qui vont s'ouvrir. Et en plus, les enfants passent d'un groupe de 8 à un groupe de 10. Donc, forte chance que si ton enfant, il est pas, tu sais, que si t'es comme encore en attente, que tu sois appelé pour rentrer dans le groupe de 4-5 ans. Et même si ton enfant va en milieu familial, ça peut être très intéressant de le faire parce que des fois, dans des milieux familiaux, il y en a des super bons, là, vu que ça peut convenir, puis tu peux rester là, puis si t'es bien, puis s'il n'y a pas de problème, c'est parfait. Mais des fois, il y a des enfants qui vont stagner un petit peu parce qu'il va avoir beaucoup, entouré de beaucoup de bébés, tu sais, de poupons, puis de 2-3 ans, puis là, ben l'enfant le plus grand, bon, il manque un petit peu de stimulation. Ça peut être une bonne idée d'attendre, tu sais, de rester sur la place 05, même si tu as une place ailleurs, puis d'inscrire ton enfant dans la dernière année. C'est ce que j'ai fait avec Margot, je ne pourrais être plus heureuse. Je suis tellement, tellement contente. Elle est rentrée l'été passé. C'est juste, je sais que c'est juste pour un an, mais oh mon Dieu, que c'est le jour et la nuit avec le milieu familial, et donc je vais en reparler. Je sais que ça va être un épisode long en passant, mais je pense que ça va tellement être pratique et utile. Je pense que c'est important vraiment d'en parler comme il faut. Ça se peut que ça dure une heure, je m'excuse d'avance. Mais je sais que les parents qui vivent ça, là, je sais que vous allez être contents. Donc voilà. Ensuite, j'ai envie de parler du milieu familial qui est accrédité par un bureau coordonnateur. Ça veut dire quoi? C'est que c'est quelqu'un dans une maison, donc mettons Micheline, qui a une maison, qui dans son sous-sol, elle ouvre un milieu familial, mais elle est soutenue par un bureau coordonnateur d'un CPE. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les règles et les normes sont pareilles comme dans un CPE, parce que Ils sont vraiment soutenus. Fait que c'est le même programme du ministère, en principe, là. C'est supposé être la même vigilance au niveau des protocoles de santé et de sécurité, du menu. Ils sont obligés d'afficher le menu de collation, le menu de dîner. On en reparlera un peu plus tard des lois, là, mais... Mais la différence, c'est que la gestionnaire qui opère, donc Micheline, elle est dans sa maison plutôt que dans un grand établissement. Donc, Micheline, elle est responsable en service de garde en milieu familial, RSG, et elle doit appliquer le programme éducatif, elle doit fournir deux collations et un repas par jour. Elle doit, en principe, et là, c'est là où est-ce que j'attire votre attention, parce que ça, c'est pas toujours respecté, mais elle est son temps en principe... ils doivent respecter la plage horaire de 10 heures par jour. C'est juste que là, ils sont plus flexibles dans leurs heures d'ouverture. Il y en a qui vont être ouverts de 6 heures le matin à 5 heures le soir. Ils vont jouer avec leur horaire. C'est pas nécessairement du 7 à 6. Par exemple, un milieu familial où est-ce que ma fille était, fermé à 4h30. Et des fois, ça peut être un petit peu plus problématique qu'on le pense, mais en tout cas, c'est un horaire flexible, c'est vraiment chouette, mais c'est ça. C'est l'horaire est plus flexible. Sauf que ça peut être chouette aussi parce qu'ils peuvent ouvrir plus tôt le matin. Donc, ça peut arranger plusieurs parents. Comme dans les CPE, il faut qu'elles fournissent du matériel éducatif, des produits d'hygiène communs. Ça pourrait être plus adapté pour des enfants qui sont très anxieux parce que il y a une grande stabilité. Hein. Vos enfants vont être avec la même éducatrice, dans la même maison, ça va être les mêmes règles, ils vont manger les mêmes choses, ça va être les mêmes amis pendant tout le terme ou en tout cas pendant tout le long où est-ce que ton enfant il est là. Il va développer un lien super étroit avec l'éducatrice. Tu sais, souvent, il y a un lien très étroit qui se forme, là, parents, éducatrice, enfants. Tu sais, ça devient comme l'extension de votre famille, finalement, là. Fait que ça peut être vraiment chouette à ce niveau-là si vous tombez sur un super beau milieu. Souvent, la fratrie, tu sais, ça va être super simple, là, à faire rentrer la fratrie. En espérant qu'il y ait de la place, parce qu'eux aussi sont quand même limités, là. Je vais en parler un peu plus tard au nombre d'enfants. Donc, c'est ça. Fait que, il peut avoir des sorties spéciales aussi. Ça varie vraiment d'un milieu à l'autre, là. Les milieux familiaux, c'est vraiment différent d'un milieu à l'autre, je vous le dis. Il y a des milieux familiales qui... ça va être le bare minimum, si je peux me permettre de dire ça comme ça, qui vont en faire le moins possible, que tu vas avoir l'impression que tes enfants sont plus... c'est plus de la surveillance, si tu veux, puis il y a des milieux qui vont avoir des activités, qui vont être toujours dehors, qui vont faire plein d'affaires, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très enrichissant, très stimulant, comme le milieu de ma mère, c'était vraiment un milieu hyper, hyper riche, les parents, là, pour vrai, ils étaient vraiment chanceux, puis ils le savaient, là, tu sais. Puis il y a des milieux, c'est ça, comme j'ai dit, que ça va être vraiment le bare minimum. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une formation, ces éducatrices-là. C'est RSG, il y en a plein qui en ont. Ils ont des AEC, sinon. Mais ça varie plus, OK? D'ailleurs, les éducatrices en CPE doivent faire de la formation continue pour rester à jour. Les éducatrices RSG, je me souviens plus s'ils doivent faire de la formation continue, je leur recommanderais de le faire. Donc, voilà. Okay. Alors, dans un milieu familial, il y a un maximum de 6 enfants au total, s'il y a juste une personne, s'il y a juste un adulte, dont un maximum de 2 poupons. Donc, juste 2 enfants de 18 mois et moins, donc 2 bébés, si la personne elle est seule. Et s'ils sont 2, donc s'il y a une deuxième personne, ça peut être des fois le conjoint, la conjointe ou vraiment une collègue, ils peuvent être 9 enfants au total. C'est la même contribution réduite, c'est-à-dire de 8,95, je pense, en ce moment, pour envoyer votre enfant. Et le reste, c'est le ministère, encore une fois, qui assume la différence. Et... comme je le disais, chaque milieu familial a sa propre couleur, les éducatrices ont leur propre style d'intervention, leurs propres valeurs, donc c'est sûr que ça fait partie des questions à poser, hein. C'est quoi tes valeurs, comment tu fonctionnes dans la discipline, tout ça, c'est vraiment des questions qui sont à poser, je vais en reparler dans le prochain épisode. Donc, ces milieux-là, vraiment plus de choix, il y en a plus. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans un milieu familial que rentrer dans un CPE. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Vous allez voir sur la place 05, ils sont là, les milieux qui sont reconnus, qui sont accrédités. Mais encore une fois, impératif de visiter le milieu, même un CPE, impératif de visiter le milieu, de poser des questions. Il faut avoir un bon feeling avant d'inscrire vos enfants. Puis là, il faut leur faire confiance aux éducatrices ou RSG qui vont répondre à vos questions. J'espère, je vous souhaite qu'ils soient honnêtes. Ça n'arrive pas toujours, mais si jamais c'est le cas, en cours de route, hein, on peut toujours changer de milieu. c'est pas l'idéal, mais bon, si puis j'en reparlerai si jamais vous avez des gros red flags, là. D'ailleurs, les milieux qui sont reconnus, qui sont soutenus par les BC, les bureaux coordonnateurs, il y a toujours une personne ressource hein, qui travaille dans un CPE, que si jamais il y a quelque chose, premièrement, on engage la communication, évidemment, mais vous pouvez appeler là, le BC, vous pouvez appeler le CPE, puis dire « Hey, il y a quelque chose qui marche pas dans mon milieu familial », ils peuvent aller faire des visites surprises, ils peuvent vraiment vous soutenir là-dedans. Donc, c'est quand même super intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus? Bien, les gens qui travaillent là doivent avoir des assurances, doivent avoir un certificat d'absence judiciaire, doivent avoir des cours de secourisme à jour avec toutes les interventions pour les allergies sévères. Tous les membres des familles sont questionnés. Il y a une entrevue par un agent de conformité. Faut que tout le monde soit à l'aise là-dedans. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire aussi? Ils peuvent recevoir justement par l'agent de conformité des visites surprises ou pas pour s'assurer que tout fonctionne bien. Ils essayent de soutenir le plus possible les éducatrices. Donc, c'est quand même une bonne option là, qui peut être intéressante. Et si jamais ça ne convient plus, si le milieu n'est plus adéquat, ils peuvent littéralement perdre leur permis. Donc, voilà. Le plus gros inconvénients, je trouve, dans ces milieux-là, c'est évidemment l'absence de l'éducatrice. Hein? Fait que si l'éducatrice prend des vacances, le milieu est fermé. Si elle est malade, le milieu est fermé. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut prévoir. Puis si jamais c'est une éducatrice qui est jeune, qui prévoit avoir des enfants, ça fait partie des questions à poser. Est-ce qu'elle prévoit être enceinte puis avoir d'autres enfants? Parce que ça voudrait dire que peut-être elle va fermer son milieu. Donc c'est des questions à poser, des choses à avoir avec eux. Sinon, il existe les milieux familiales privés. Eux ne sont pas accrédités, ne sont pas soutenus par un CPE. Donc ils peuvent fonctionner, par contre, ils doivent avoir un permis qui est octroyé par la ville. Sans quoi, s'ils n'ont pas de permis, là, ça veut dire que c'est des milieux qui sont illégaux. Puis je vais parler, dans le fond, les milieux illégaux, là, c'est que c'est illégal, hein, fait qu'il n'y a aucune règle, aucune loi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, charger ce qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés d'avoir des assurances, je veux dire, c'est illégaux, là, ils peuvent faire littéralement ce qu'ils veulent, donc ça, c'est vraiment à surveiller. C'est important de ne pas inscrire vos enfants dans des milieux qui ne sont pas reconnus, parce que on veut quand même qu'il y ait des règles, on veut quand même cette assurance-là comme parent. Mais ces milieux-là, qui sont des milieux familiaux privés, eux, ils vont pas recevoir la visite d'une agence de conformité. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez pas communiquer avec le BC. Il y a personne avec qui vous pouvez communiquer, finalement, si vous avez l'impression que vous vivez quelque chose de pas normal, d'inquiétant, ou après, vous pouvez probablement faire des plaintes à la ville, mais il y aura pas un CPE qui va aller visiter. Mais ils doivent avoir des assurances de responsabilité civile. Par contre, comme tous les autres milieux de garde, la responsable de garde doit aussi avoir un certificat d'absence d'empêchement judiciaire et tous les adultes qui vivent sous ce toit-là doivent aussi obligatoirement fournir des preuves comme quoi qu'ils n'ont pas d'autres dossiers judiciaires en lien avec les enfants qui pourraient être des gros red flags qui pourraient être vraiment dangereux. Et vous, les parents, quand vous visitez ces milieux-là, vous devriez demander de voir les assurances. Vous devriez demander de voir... Je sais que ça a l'air niaiseux, mais c'est important de le faire parce qu'eux, ils peuvent vous dire qu'ils ont le permis puis qu'ils sont accrédités. Pas accrédités, mais je veux dire qu'ils ont le permis puis qu'ils sont légaux et ça pourrait ne pas être vrai. OK? Fait que vérifiez, demandez, c'est votre droit de demander, est-ce que je peux avoir tes preuves d'assurance? Est-ce que je peux avoir tes preuves d'empêchement judiciaire? Ils sont obligés de te fournir ça parce que tu es supposé signer, toi, comme parent, quand tu inscris ton enfant, un formulaire qui stipule que tu as pris connaissance de ces documents-là. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Donc, demandez-le parce que si la personne, elle est réticente à vous le fournir, ses preuves d'assurance, toutes les choses qui prouvent qu'elle est légale, petite inquiétude, petit red flag ici. Il y a énormément aussi de beaux milieux privés hein, qui existent, qui sont en fonction un peu partout au Québec. Ça existe, là, des mères au foyer, des anciennes infirmières en périnatalité, des éducatrices qui veulent exercer leur métier de la maison, des femmes qui, comme toi, comme moi, aiment les enfants, aiment ça, puis ils aimeraient ça en faire leur propre métier en étant leur propre patron, puis ça, c'est absolument legit. Fait que ça, c'est vraiment pas des mauvais milieux nécessairement. Ces milieux-là s'inspirent souvent des CPE, justement. Puis souvent, ils vont s'inspirer aussi des programmes éducatifs. Ils vont pouvoir aller chercher puis essayer d'appliquer la même chose. Dans le fond, ils peuvent l'avantage, c'est qu'ils peuvent opérer le soir, ils peuvent opérer la fin de semaine, ils peuvent opérer très tôt le matin, très tôt le soir. Il y a vraiment une grande flexibilité qui est au choix de la personne qui sauve ce milieu-là. Ce qui varie aussi beaucoup, c'est les coûts. Ça peut être un milieu à 25$, ça peut être un milieu à 40$, ça peut être un milieu à 60$. Donc, ça peut vraiment varier. Alors donc, il existe malheureusement... puis il y a aussi quand même une loi là qui ils peuvent pas avoir 18 enfants. Là. Les ratios, c'est quand même encore une fois la même chose. Par contre, milieu illégal, encore une fois, peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent avoir 18 enfants s'ils veulent et faire la palette. Ils pourraient ne pas avoir de cours de secourisme. Ça se pourrait que le conjoint n'y ait pas des empêchements judiciaires puis que Dieu sait qu'est-ce qu'il a fait dans son passé. Faut être hyper prudent. Puis ça arrive qu'il y a des milieux familiaux privés qui deviennent des milieux familiaux privés légal ou illégal pour les mauvaises raisons. Parce que oui, ça peut être payant. Mettons que tu es un milieu familial puis que tu charges 60$ par journée puis que tu dis aux parents à quel point tu es un milieu extraordinaire. Ça se peut que ça soit pas le cas. C'est la triste réalité. Il y a des milieux qui peuvent être insalubres. Il y a des milieux qui peuvent représenter un danger pour le développement des enfants. Mais heureusement, ils sont facilement identifiables. Ils sont de plus en plus rares. Donc, si jamais vous en visitez, là, faut vraiment pas hésiter à dénoncer pour protéger les autres enfants, pour protéger les autres familles qui auront pas eu cette information-là. Donc, en te renseignant bien, en écoutant le dossier aujourd'hui, dans les prochaines semaines, en posant les bonnes questions, tu vas arriver à vraiment rapidement spotter les milieux qui ne sont pas adéquats et à les dénoncer. Faut le faire pour aider tout le monde. Ensuite, garderie privée subventionnée. Le nom le dit, c'est une garderie qui est à but lucratif. Okay? Donc, dans le but, oui, de faire de l'argent. C'est une garderie qui est une propriété privée. Il y a un propriétaire, il y a quelqu'un qui est là, qui c'est sa business, OK? Mais cette garderie-là est en grande partie subventionnée par le ministère de la Famille. Donc, les normes, le programme éducatif sont les mêmes souvent et mon expérience... dans le milieu, m'a permis de constater que la qualité du service n'est pas nécessairement moins bonne qu'ailleurs. Par contre, comme dans tous les milieux, CPE inclus, les valeurs, les priorités, tout ça, ça varie énormément. Donc, ça peut arriver de voir des jouets, du mobilier, une décoration, un menu qui n'est pas vraiment au goût du jour, entre autres parce que les subventions à cet effet sont beaucoup moins importantes que dans un CPE, où ben ils peuvent faire ce qu'ils veulent un peu avec les subventions. Là, hein? On s'entend, ils peuvent les utiliser comme ils veulent, les subventions. C'est ça. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est un moins bon milieu, c'est juste qu'il faut garder en tête que c'est des organismes à but lucratif. Donc, c'est pas parce que, mettons, le menu, il est pas végétarien ou il est pas bio que la qualité du personnel est moins bon. OK? Puis, je suis vraiment pas ici pour taper sur... tu sais, je veux pas dénigrer aucun milieu, là. Il y a des excellents milieux, des moins bons milieux dans tous les types de services confondus. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. Il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins, il y a des bons garagistes, il y a des moins bons garagistes, mécaniciens, bref. OK, fait qu'il y a des bonnes garderies, il y a des moins bonnes garderies, il y a des bons CPE, il y a des moins bons CPE. Tout est subjectif et tout dépend de aussi tes propres valeurs, de tes propres priorités, de tes propres besoins. Donc, il suffit de poser les bonnes questions pour toi, pour ton enfant et d'écouter ton instinct de parent. Mais la base étant la base, les garderies privées subventionnées sont sous le même modèle souvent que les CPE, c'est-à-dire offrir 10 heures de garde par jour. Généralement, ils sont ouverts du lundi au vendredi, de 7 à 18 heures. Ils offrent 2 collations, ils offrent un repas. Sinon, les normes sont les mêmes en termes des ratios, donc du nombre d'éducatrices par groupe. Faut qu'ils fournissent aussi du matériel éducatif, du matériel d'hygiène commun. Le coût est aussi à contribution réduite, donc vous, en tant que parent, vous allez payer le tarif qui est... Encore une fois, je ne sais plus, je pense 8,95, ça change de toute façon à chaque année. Et les décisions doivent aussi être entérinées par un CA, un comité de parents, mais contrairement au CPE, le propriétaire ou la propriétaire a le dernier mot. Fait que il y a un CA, mais la propriétaire peut quand même décider un peu de faire ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Et ensuite, il y a les garderies privées non subventionnées. Fait que peut-être que tu as entendu parler des garderies Montessori, les académies préscolaires. Donc, tout ce qui est garderies privées qui ne mentionnent pas qu'ils sont subventionnés, c'est une garderie privée. Donc, c'est, encore une fois, un propriétaire, c'est à but lucratif, donc l'objectif, c'est de faire de l'argent avec cette business-là. C'est des milieux qui ont qui peuvent avoir des approches pédagogiques très précises, avec des valeurs très précises et un fonctionnement bien particulier. Donc, c'est super important, avant d'inscrire nos enfants dans ces milieux-là, de comprendre c'est quoi le modèle pédagogique, est-ce que ça va bien répondre aux intérêts, aux besoins de notre enfant. Donc, souvent, on va avoir des garderies, mettons, axées sur le sport, axées sur la nature, axées sur la danse, axées sur la musique, axées sur, mettons, OK, c'est anglophone, bilingue, trilingue. Bref, il y en a là, pour tous les goûts de ces garderies-là. Des fois, ça peut être hyper alléchant. Ils vont charger super cher. Souvent, ces milieux-là, ça va être des milieux à 50-60$, dépendant, peut-être même plus, dépendant des quartiers, dépendant des spécialisations. Mais c'est dans ces milieux-là que je dirais qu'il faudrait le plus dig in, qu'il faut le plus poser de questions, le plus observer, parce que c'est pas parce que c'est « wow, ouais, c'est hot ce milieu-là, c'est une garderie qui font de la danse, qui font du sport, qui font de l'anglais ». C'est bien beau des programmes, là, tu sais, je veux dire, moi aussi, je peux vous faire un super beau programme, puis après ça, offrir un service éducatif très limite, OK, en termes de la formation des éducatrices, en termes de est-ce que c'est bien un milieu bienveillant, tu sais, c'est quoi, comment ils font pour discipliner les enfants, c'est quoi leur valeur, c'est quoi leur principe éducatif, tu sais, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de questions à poser, souvent ça va être des éducatrices qui vont être sous-payées, parce que c'est une business, parce que le but premier de ces places-là, c'est de faire de l'argent, là. C'est vraiment une entreprise. Oui, il y en a plein qui vont avoir à cœur les enfants, les parents, le développement, puis il y en a plein qui sont bien intentionnés, mais encore une fois, il y en a que c'est ça, ça va être des machines à faire de l'argent. Donc, faut vraiment, 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 vraiment analyser ces milieux-là. Certains milieux vont offrir différents repas. Il y a des milieux qui vont offrir les déjeuners, des soupers, des dîners. Il y en a que ça va être, c'est ça, des dîners végé bio vraiment hot. Tu sais, c'est un peu free-for-all là, dans ces garderies-là, finalement. Il y en a qui vont faire des sorties spéciales. Ils vont demander un supplément aux parents. Fait que il y a vraiment beaucoup de questions à poser si tu songes à inscrire ton enfant dans un milieu privé. Et, soit dit en passant, payer plus, je te l'ai dit tantôt, là, tu peux faire un super beau programme puis rien offrir de tout ça ou ton milieu peut être super inapproprié, mais le parent ne le sait pas parce que le parent n'est pas là. Okay? Mais il y a des super milieux aussi, il va même avoir des caméras de surveillance puis que tu peux regarder ton enfant puis que tu vas payer 90$ par jour. Il y en a de tous les goûts. Pour vrai, là, c'est vraiment... on ouvre ça, c'est une boîte de Pandore. Là. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent sortir de là. Donc voilà, allez visiter, poser les bonnes questions, écouter le prochain épisode pour savoir justement comment cibler un bon milieu versus un moins bon milieu. Et je saute rapidement dans la partie que je pense qui est quand même super importante parce que c'est votre droit, les parents, de savoir c'est quoi les règles, c'est quoi les règlements des services de garde qui sont communs, OK? Fait que c'est pour être sûr que vos enfants sont respectés, que le milieu respecte ces lois-là, que votre enfant est en sécurité, puis que, bon, ce qui est fait dans le milieu, c'est legit ou ça ne l'est pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les services de garde éducatifs sont régis selon la même loi. Soit la loi sur les services de garde éducatifs, voyons, je vais recommencer, la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Et ça, c'est des règles que tous les milieux, sauf les milieux illégaux, parce que je l'ai dit, ça existe, qui n'auront pas de permis. Et ils sont illégaux, là, je veux dire, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Fait que c'est pour ça qu'il faut dénoncer. Mais sinon, toutes les autres qui soient privés, subventionnés, peu importe, ils ont les mêmes lois et règles à respecter qui sont de favoriser le développement global de l'enfant en lui permettant de développer toutes les dimensions de sa personne, notamment sur le plan affectif, social, moral, cognitif, langagier, physique et moteur. Ensuite, d'amener progressivement l'enfant à s'adapter à la vie en collectivité et de s'y intégrer harmonieusement. De favoriser la réussite éducative de l'enfant, notamment en facilitant sa transition vers l'école. Ça, c'est des points qui sont nommés dans la loi que tous les milieux sont tenus de mettre les choses en place pour ça, pour s'assurer de ça, que l'enfant grandit bien, que toutes les sphères de son développement sont stimulées et qu'il est préparé à aller à l'école, qu'on travaille l'autonomie, tu sais, que l'enfant, quand il est rendu à 4-5 ans, que l'éducatrice, que ce soit en RSG ou pas, en RSG, je veux dire en milieu familial ou en CPE ou en garderie privée, il faut qu'il apprenne notamment à s'essuyer les fesses, il doit être capable de manger toute seule, bon. Fait qu'ils doivent les soutenir dans le développement, là. C'est pas supposé d'être des milieux où est-ce que les éducatrices regardent, surveillent les enfants. C'est pas ça, là. C'est pas des surveillantes. C'est des éducatrices, OK? Mais bon, c'est à surveiller, donc à observer et à poser des questions. Dans tous les milieux, ce qui est obligé, ce qui est obligatoire, c'est que les employés doivent avoir un cours de les employés doivent avoir un cours de secourisme. Donc, ils doivent avoir le RCR spécifique aux enfants avec gestion d'allergies sévères à jour. Ils doivent avoir un certificat d'empêchement judiciaire, je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont obligés de respecter le ratio éducatrice-enfant que j'ai dit tantôt. Et si jamais ils ne respectent pas cette règle-là, ils peuvent perdre leur permis, avoir des amendes, des avertissements, ça coûte très cher. Donc, 2 éducatrices sur tout le milieu, sur 3 en fait, qui sont présentes sur les lieux, sont supposées d'être qualifiées. Il y a l'ARC aussi des fois, mais ils sont supposés de respecter ça. Réalistement, avec notre problème avec la main-d'œuvre aujourd'hui, puis tu sais, je blâme pas les éducatrices. Donc, chaque milieu doit respecter la limite d'enfants qui est écrit sur leur permis, OK? Fait que sur le permis, que ce soit une garderie privée, un milieu familial, un CPE, ça va être écrit sur leur permis. Tu as le droit d'avoir 26 enfants, tu as le droit d'avoir 60 enfants, tu as le droit d'avoir 80 enfants. Donc, maximum 80 enfants. Et ensuite, le reste, les enfants sont calculés en fonction de la superficie, la surface exploitable du service de garde. Et sinon, tout ce qui est les CPE, là, le milieu doit avoir un conseil d'administration, je l'ai dit tantôt, 7 personnes, dont minimum 5 parents. Mais ce que la loi ne dit pas, donc, il n'y a pas de contre-indication au sens de la loi par rapport aux horaires d'un milieu de garde, ni par rapport aux journées qui sont opérables. Donc, la loi ne parle pas non plus de comment on doit élaborer un menu. Ça ne parle pas aussi de l'esthétisme des lieux. Donc, tant que ça nuit pas au développement de l'enfant, ça peut être dans un... Comme moi, ma fille, elle va dans un milieu où est-ce que c'est dans une vieille maison. Un vieux logement, juste comme un triplex, j'imagine. Mais toute la surface du premier étage, ça a été transformé en garderie. Donc, ça peut être comme ça. Il y a littéralement des locataires qui habitent au-dessus. On va l'observer beaucoup, beaucoup à Montréal. Ça va être dans n'importe où ils peuvent trouver de la place, finalement. Il peut avoir des cours extérieurs, comme il pourrait ne pas en avoir. J'ai travaillé dans un CPE où est-ce qu'il y avait une cour. J'ai travaillé dans un CPE où est-ce qu'il n'y avait pas de cours. Donc, ça c'est pas une obligation. Par contre, les enfants doivent sortir à tous les jours. Il n'y a pas de loi, c'est ça, comme je le disais, par rapport au menu. Il n'y a pas de loi par rapport à l'utilisation de la télévision. Il n'y a pas de loi par rapport aux appareils électroniques non plus durant les heures de garde. Donc, ça appartient vraiment à la direction qui doit faire ces réglementations-là. Fait qu'il y a ça varie d'une place à l'autre. Il n'y a pas de loi non plus concernant le fonctionnement des siestes. Il n'y a pas de loi concernant l'approche visée par rapport à la pédagogie, par rapport à quel cadre va être offert, tu sais, en lien avec la discipline. Est-ce que c'est un milieu qui est plus dans la bienveillance? Est-ce que c'est un milieu qui est plus dans l'alimentation intuitive? Ou est-ce que les enfants vont avoir des punitions, de l'isolement? Est-ce que les enfants vont être obligés de rester sur leur matelas puis à dormir? Est-ce que les enfants vont être obligés de finir leur assiette? Tout ça, là, c'est vraiment très, très, très individuel, très personnalisé, très personnalisable aussi. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est important de poser les questions, parce que le gouvernement, il n'y a pas un programme qui dicte tout quoi faire au corps de tour, là, OK? Donc, chaque milieu va avoir sa petite couleur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça peut vraiment varier d'un milieu à l'autre. Je l'ai dit et je l'aurais dit, chaque milieu est unique. De la même façon que ton enfant est unique. Donc, la question que tu dois maintenant te poser, c'est toi comme parent, c'est quoi tes priorités, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi le genre de milieu que tu penses va mieux répondre aux besoins de ton enfant ou de tes enfants. Donc, fais une liste de tes priorités dans ta tête sur un papier, puis après ça, la semaine prochaine, reviens écouter ici tout ce que je vais dire par rapport aux red flags, par rapport aux choses à observer, par rapport aux questions à poser. Ça risque de vraiment te guider aussi. Puis, tu sais, je veux que tu te rappelles, puis je vais le répéter la semaine prochaine, il n'y a pas de questions idiotes. là, ton enfant, il n'est pas inscrit. C'est là le temps de vraiment comme creuser puis poser toutes les questions que tu veux pendant qu'il n'y a pas de malaise. Puis tu sais, le pire des cas, c'est que tu n'acceptes pas la place. Puis c'est tellement correct là, de ne pas accepter une place. C'est mieux de ne pas accepter une place si tu te sens inconfortable que de l'accepter en te disant comme « mais j'ai pas ben choix » puis que tu vives un enfer, que tu sois super insécure, que tu fasses pas confiance au milieu, que ton enfant n'est pas bien pour finir par retirer ton enfant puis là devoir repasser à travers tout le processus, ok? Écoute ton instinct. S'il y a une petite voix qui te parle puis que ça t'empêche de dormir, ben c'est pas probablement après ta visite, là. Tu sais, si mettons tu vas visiter une place puis après ça tu dors pas bien, là, t'es pas bien, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui te rend pas confortable. Si jamais tu veux en savoir plus concernant les lois, les règlements des services de garde, les associations québécoises des CPE par rapport au ministère de la Famille, je vais te mettre dans la description du podcast ou en fait sur le... Je fais toujours un article là, associé avec le podcast que tu peux retrouver dans la section balado sur wikid.ca. Je vais mettre tous les liens avec toutes les différentes places où est-ce que tu vas pouvoir retrouver justement ces lois-là puis tout le fonctionnement de ces CPE-là. Et là, ça fait vraiment longtemps que je parle. Je sais, je suis vraiment désolée, mais je le sais que vous allez apprécier les parents qui ça concerne. Et je vous reviens la semaine prochaine avec un épisode vraiment plus short and sweet sur les choses à observer, les red flags, les questions à poser. Alors, on se voit la semaine prochaine, les parents. Tourlou!